Merci beaucoup, Sarah. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio
J. Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Nous sommes toujours en direct. Vous pouvez également nous regarder sur notre chaîne YouTube. 383e jour de guerre en Israël, toujours 101 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, et une annonce ce matin tragique. Hier, Tzal a autorisé la publication des noms de 3 soldats tombés au combat.
Et oui, Ilana, il s'agit du commandant de réserve Aviram Kariv, 42 ans, originaire de Dolev, commandant adjoint du bataillon 93-08 de la brigade 228 qui est tombé dans le sud du Liban. Le sergent-major de réserve Sahar Eliad Norski, 27 ans, de Tel Aviv, soldat réserviste dans le bataillon 508 de la brigade Adirim qui a été tué lors d'une salve tirée sur la région de la Haute-Galilée hier matin, et du sergent-chef Ishaïman, 21 ans, de Mitzpé Yericho, soldat dans la brigade Nahal, tué dans un accident opérationnel à la frontière de Gaza. Que leur souvenir soit source de bénédiction.
Et Tzal l'a par ailleurs confirmé, l'éventuel successeur de Hassan Nasrallah a été éliminé.
Oui, 3 semaines après l'attaque à Dahiya, Tzal a confirmé hier soir que le chef du conseil exécutif du Hezbollah, Hashim Safi El-Din, a été éliminé. Il était membre du forum politico-militaire le plus haut placé de l'organisation terroriste et avait été désigné comme un possible successeur de Nasrallah. Dans cette attaque, 2 autres hauts responsables du Hezbollah ont été éliminés. Le chef du renseignement ainsi que le chef du renseignement aérien de l'organisation terroriste en Syrie, Mohamed Sahin.
Hier, Tzal a par ailleurs ordonné l'évacuation de plusieurs immeubles d'un quartier au sud de Beyrouth.
L'armée israélienne a en effet émis un avertissement exceptionnel aux résidents de la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah. Cet appel indique que cette mesure devait être prise dans un proche avenir. Et Avishai Aderi, le porte-parole arabophone de l'armée, a partagé sur le réseau social X une carte précisant les bâtiments concernants et a demandé une évacuation immédiate dans un rayon d'au moins 500 mètres.
Par ailleurs, le Hezbollah a reconnu la responsabilité du lancement d'un drone sur la résidence de la famille Netanyahou à Césarée.
Oui, c'était la semaine dernière, on s'en souvient, le Hezbollah a revendiqué l'entière et exclusive responsabilité du lancement de ce drone en direction de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée. Cette annonce intervient après des révélations de la chaîne saoudienne Al-Adad qui citait des sources affirmant que l'enquête israélienne confirme l'implication iranienne dans cette attaque. Et selon ces mêmes sources, des diplomates de l'ambassade iranienne à Beyrouth auraient été aussi impliqués dans ces tentatives d'assassinat visant Benjamin Netanyahou et sa famille. Et le porte-parole de Tzal a quant à lui publié hier des photos de la villa endommagée par le drone du Hezbollah.
Anthony Blinken était hier en Israël. Par ailleurs, il a rencontré les principaux responsables israéliens.
En effet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem et d'autres responsables du gouvernement israélien. L'Iran et surtout la réaction israélienne à l'attaque iranienne a été au centre de l'entretien entre le premier ministre et le secrétaire américain qui a duré 2 heures. Lors de cette réunion, ils ont aussi discuté de l'importance de capitaliser sur le succès de l'élimination de Sinwar pour obtenir la libération de tous les otages, et Blinken a aussi insisté sur la nécessité de mettre fin au conflit d'une manière garantissant une sécurité durable tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Puis il a été question aussi de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui a été un point central, et un appel à Israël à intensifier ses efforts dans toute la bande de Gaza. Ils ont également abordé la situation au Liban. Blinken a réaffirmé le soutien indéfectible des États-Unis à Israël.
Et justement, concernant l'aide humanitaire à Gaza, on apprend qu'elle a été intensifiée.
Tout à fait. Suite aux directives des autorités politiques israéliennes, une opération majeure d'acheminement d'aide humanitaire vers le nord de la bande de Gaza a été menée depuis le début de la semaine, depuis lundi dernier. Au total, 237 camions chargés de produits de première nécessité ont été acheminés vers cette zone. Le convoi, composé de denrées alimentaires, d'eau, de fournitures médicales et d'équipements pour abris, provient de Jordanie et de la communauté internationale. Les autorités israéliennes soulignent que l'ensemble de l'aide fait l'objet de contrôles de sécurité rigoureux. Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires affirme que ces opérations se poursuivront dans le respect du droit international.
Merci beaucoup. Merci Olivier Granilli. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Un point sur la météo de ce mercredi matin. C'est le retour au calme grâce aux conditions anticycloniques. Mais les nuages bas, les brumes et les brouillards sont nombreux au nord de la Loire. Attention aux visibilités parfois réduites si vous devez prendre la route notamment. Le soleil va s'imposer plus facilement sur les régions du sud. Et ce sera par ailleurs l'après-midi la plus ensoleillée de la semaine à l'échelle nationale. Avec un ressenti agréable en raison de la douceur et du soleil. 17 degrés à Paris, 21 à Marseille. D'ailleurs, seule ville où les orages sont attendus aujourd'hui. 15 à Strasbourg et puis en Israël, du soleil et de la chaleur, 22 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv, 27 à Ashkelon, 23 à Haïfa.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous devions retrouver dans quelques instants Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France, mais il vient de nous envoyer un message. Actualité oblige, alerte en Israël en ce moment. Il a dû foncer dans l'abri justement anti-atomique. Et oui, c'est la réalité de cette guerre. La chronique est donc reportée pour le moment. On espère que tout ira bien en Israël, mais c'est vrai, les alertes à la roquette qui continuent. 140 roquettes tirées du Liban sur le territoire israélien notamment. On devait parler d'ailleurs avec Daniel de la situation au Liban. Il devait nous parler de la situation avec les casques bleus de la FINUL, notamment le rôle des casques bleus dont Israël demande le départ, la mise en cause de l'ONU dans la dégradation de la situation au Liban, mais aussi les échecs passés des Nations Unies à jouer son rôle au Proche-Orient. Daniel Saada sera avec nous peut-être un petit peu plus tard dans la matinée. En tout cas, on l'a appris et on l'a dit avec Olivier, des nouveaux soldats ont été tués, Eva, à la frontière nord. On l'a appris ce matin.
De nouveaux soldats. Viram arrive, 42 ans, commandant adjoint à la brigade Alon, un autre réserviste qui lui avait 27 ans, Sar. Eliad Navarski, originaire de Tel Aviv. Vous l'avez dit, Ilana, le Hezbollah a tiré au moins 140 roquettes sur Israël hier. À nouveau, ce matin, des alertes aux drones, de drones en provenance de Syrie. Ce sont des milices pro-iraniennes en Irak qui ont revendiqué cette attaque. Et puis, les sirènes qui retentissent ce matin à Tel Aviv et dans les villes environnantes. Également alerte aux roquettes dans plusieurs villes de Haute-Galilée. Le Hezbollah probablement en train de tirer des barrages de roquettes pour l'instant dans la région de Tel Aviv. Donc les habitants sont appelés à se mettre aux abris. Dans la soirée déjà hier, près d'1 million d'Israéliens ont dû se réfugier dans ces mêmes abris le long de la côte nord et aussi dans le centre, cette fois-ci à cause d'alerte aux drones. Les forces de Tsahal, de leur côté, ont détruit plusieurs dépôts d'armes et puis de tunnels hier, dont certains abritaient des équipements de communication et un poste de commandement du Hezbollah. L'aviation israélienne a aussi ciblé plusieurs dépôts d'armes du Hezbollah situés dans le quartier de Dahriyeh à Beyrouth. Également, on l'apprend ce matin, trois commandants du Hezbollah ont été éliminés.
Merci beaucoup Eva pour ces informations et on parlera aussi de cette visite tout à l'heure certainement avec Pascal Zonshein d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui était en Israël, qui est en tournée dans la région, qui est attendu d'ailleurs en Arabie Saoudite aujourd'hui. Blinken qui a appelé Israël hier à profiter de la mort par ailleurs du chef du Hamas, Yahya Sinwar, pour mettre fin à la guerre. Effectivement, en visite à Jérusalem, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, avec le ministre de la Défense Yoav Gallant, l'a appelé à prendre des mesures supplémentaires aussi pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils à Gaza. On fera le point tout à l'heure de cette actualité. Vous restez avec nous. Tout de suite, on revient à l'actualité en Europe avec Yves Ochinski, président du CCOJB, Comité des organisations juives de Belgique.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
Merci de votre fidélité. Et oui, on revient à l'actualité en Europe et notamment en Belgique. Nous sommes avec Yves Ochinski, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique, le CCOJB. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre, effectivement, en raison de ce qui se passe en ce moment en Belgique, à Bruxelles. On l'a vu, cette manifestation, ce prêche antisémite, notamment d'un homme, un prédicateur, qui a clamé en arabe « Allah brûle les Juifs » devant une foule qui agitait des drapeaux palestiniens. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images ?
Nous sommes en Belgique dans un climat extrêmement hostile et agressif à l'égard d'Israël, mais avec un amalgame que nous connaissons évidemment très bien entre Israël et les Juifs. Comme tous les antisémites, on ne parle d'ailleurs jamais, on n'utilise pas dans ces milieux-là le terme israélien, c'est toujours les Juifs. Et donc, il y a eu plusieurs événements récents. Donc, le 7 octobre, dans la soirée, il y a eu, comme très régulièrement à Bruxelles, dans le centre de la ville, une réunion massive de personnes hostiles et constituées généralement de musulmans, qui se réunissent régulièrement. Et donc, lors de cette commémoration du 7 octobre, ils nous ont confisqué notre propre commémoration puisqu'ils se sont réunis. Et effectivement, il y a un prédicateur qui a lancé des prières et qui, au sein de son prêche, a effectivement dit en arabe. Hein, donc oui. La traduction, c'était « Allah brûle tous les Juifs ». Donc ça c'est l'aspect, je dirais, religieux, l'aspect prêche.
Il y a des élus qui ont porté plainte. Je crois, en tout cas, ils ont exprimé leur colère. Ils ont exigé une réaction immédiate des autorités. Est-ce que les autorités, justement, ont réagi suite à cette manifestation ?
Mais il y a effectivement des élus du parti NVA, qui est le parti nationaliste et le parti qui devrait envoyer son président comme futur premier ministre de Belgique. Donc un de ses membres influents, qui s'appelle Theo Franken, s'est insurgé contre ce prêche et cette attitude. Et donc, il semble, d'après les informations qu'on a eues, qu'il y ait une vidéo qui est examinée par le parquet et peut-être que j'espère que des initiatives de poursuite seront prises à travers l'identification non seulement de ce prédicateur, mais des organisateurs de cette réunion.
Alors, je voulais aussi vous faire réagir, Yves, à cette plainte contre l'auteur Herman Brusselmans. On en avait parlé avec vous, d'ailleurs, hein. Une plainte qui a été rejetée. Apparemment, on le rappelle, cet auteur, ce chroniqueur belge, avait écrit « Enfoncer un couteau tranchant dans la gorge de chaque juif ». La plainte contre lui a été rejetée car les statuts de l'association à l'origine de la plainte ne mentionnent pas qu'elle œuvre à la lutte contre la discrimination à l'encontre des juifs. Pour vous, c'est une décision compréhensible, incompréhensible ?
Écoutez, il y a dans cette affaire plusieurs éléments de procédure. Il y a d'abord la première organisation, qui est une institution publique qui s'appelle UNIA, a déposé une plainte entre les mains du procureur du roi. C'est une institution d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Donc cette plainte-là, elle existe probablement toujours. Il y a une organisation qui s'appelle European Jewish Association qui a déposé une plainte avec constitution de parti civil. Et cette plainte-là a été déclarée irrecevable pour des motifs qui tiennent à cette association qui n'aurait pas dans ses statuts la lutte contre l'antisémitisme. Mais il y a une autre plainte qui a été déposée par le CCOJB, le Forum de Riots Organisati, qui est l'organisation qui réunit les associations anversoises, le Centre communautaire laïque juif et un institut qui s'appelle l'Institut Jonatas. Cette plainte a des quatre organisations, dont la nôtre, elle est déposée, plainte avec constitution de partie civile, et cette plainte-là suit bien son cours. Donc l'affaire Brusselmans, au plan judiciaire, n'est certainement pas terminée.
Elle n'est pas terminée.
Et voilà, donc on peut être rassuré, cette irrecevabilité ne concerne que la plainte d'une association qui n'est pas la nôtre.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ivo Ginski, d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, en ce 383e jour de guerre, les sirènes d'alerte qui retentissent ce matin à Tel Aviv et dans les villes avoisinantes, également dans plusieurs villes de Haute-Galilée. Pour la seule journée d'hier, le Hezbollah a tiré au moins 140 roquettes sur Israël et dans la soirée, près d'1 million d'Israéliens ont dû se réfugier dans les abris le long de la côte nord. Les sirènes ont retenti cette fois-ci pour avertir d'une possible infiltration de drones. Infiltration de drones également ce matin en provenance de la Syrie, revendiquée par des milices pro-iraniennes. Le drone apparemment a été abattu. Également dans l'actualité ce matin, l'annonce de la mort de deux nouveaux soldats de Tsahal tués à la frontière nord. Avira Mariv, 42 ans, commandant adjoint à la brigade Alon et originaire de Dolev, et un autre réserviste qui lui avait 27 ans, Sahar Eliad Navarski, originaire de Tel Aviv. Il a été victime de tirs de roquettes du Hezbollah contre le nord d'Israël hier en Galilée. Le Hezbollah a décapité le successeur désigné d'Hassan Nasrallah. Lui aussi a été éliminé. Hussein Ali Azim a été visé dans une frappe de Tsahal au début du mois, le 4 octobre dernier. Ça, c'était le chef de la division du renseignement du groupe terroriste libanais. Et le successeur désigné d'Hassan Nasrallah, Hachem Safieddine, se trouvait à ses côtés. Sur le front sud, une opération majeure d'acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Un convoi chargé de produits de première nécessité a été acheminé vers le nord du territoire, particulièrement affecté par la guerre lancée par le Hamas. Diplomatie, le secrétaire d'État américain attendu en Arabie Saoudite aujourd'hui. Hier, Anthony Blinken était en Israël. Et en France, anti-juif comme slogan sur un t-shirt porté par un homme dans le métro. Une plainte a été déposée.
Merci beaucoup Eva, à tout à l'heure sur Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Le club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Vous rêvez d'un investissement immobilier rentable et sécurisé? Avec Helios Premium Immobilier, c'est possible au cœur de la magnifique Riviera Maya au Mexique.
Helios Premium Immobilier.
L'équipe française d'Helios Premium Immobilier vous accompagne sur place à chaque étape de votre projet. Investissez sans contrainte, diversifiez vos avoirs et maximisez vos gains dans un marché en pleine croissance avec un environnement fiscal avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle.
Helios Premium Immobilier.
WhatsApp au +33 601 741 452. Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Informations et tickets à 26 euros, disponibles sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Le Sénat examinera ce mercredi 23 octobre une proposition de loi socialiste pour reporter les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Si elle est adoptée, elle offrira un répit au gouvernement. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président justement du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour.
Bonjour Yana.
Merci beaucoup Patrick d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors cet après-midi, vous allez défendre au Sénat un texte sur la Nouvelle-Calédonie. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez tenu à vous impliquer sur ce qui se passe là-bas.
Alors je reconnais que ce matin sur Radio J, ça peut paraître un sujet lointain par rapport à nos préoccupations immédiates. Mais après tout, la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, elle se trouve à 16 000 km de Paris. Mais c'est la France, et j'ai découvert d'ailleurs qu'il y a une petite communauté juive d'environ 150 âmes, et donc je les salue le décalage horaire. Aujourd'hui, en fait, et depuis plusieurs mois, un territoire français est plongé dans un chaos absolu. Et on n'en parle plus, malheureusement. Sur un territoire français, des mois d'émeutes ont causé, tenez-vous bien, 2 milliards 200 millions d'euros de dégâts, mis 24 000 salariés au chômage. Alors, si je ramenais ces 24 000 salariés au chômage aux salariés en métropole, ça ferait 650 000 salariés qui seraient aujourd'hui au chômage à cause de ces événements sur la France métropolitaine. Donc, c'est un territoire français qui a fait aussi 13 personnes décédées, dont 2 gendarmes. Et donc, les néo-calédoniens aujourd'hui sont très inquiets pour leur avenir, pour la sécurité, pour la santé, pour le transport. C'est un peu une catastrophe, y compris en matière de scolarité pour les enfants. Et c'est vrai que le précédent gouvernement a fait n'importe quoi, je crois qu'il faut le dire comme ça, en voulant forcer la main, et il a cassé en quelques mois les fameux accords de Matignon de 88, mais aussi l'accord de Nouméa de 98.
Alors votre texte, Patrick, vise à reporter les élections locales en Nouvelle-Calédonie qui devaient se tenir au mois de décembre, donc là dans quelques semaines. Pourquoi vouloir reporter ces élections?
Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées des provinces de Nouvelle-Calédonie devait se tenir le 15 décembre prochain. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise que je vous ai un peu et modestement évoqué. Et donc, il était tout bonnement pas possible, matériellement, d'organiser un scrutin dans de bonnes conditions sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan du dialogue politique. Et donc, ma proposition de loi, qui, je pense, sera adoptée à l'unanimité ou quasiment à l'unanimité tout à l'heure au Sénat et sera ainsi envoyé à l'Assemblée nationale avec, j'espère, le même succès. Bien, c'est un projet de loi qui va permettre de reporter ces élections au plus tard le 30 novembre 2025. Ça veut dire très, très concrètement que ça permettra de se donner du temps pour retrouver des voies du dialogue. C'est un report qui est pour moi indispensable. Il doit aussi servir, et j'espère que ça sera entendu par le gouvernement, à la reconstruction économique de ce petit bout de France dans le Pacifique qui nous assure aussi de la souveraineté internationale dans ce secteur du monde.
Alors c'est intéressant aussi, c'est le gouvernement lui-même qui a souhaité que le Sénat examine justement votre texte aujourd'hui. Pourquoi? Pour quelle raison?
Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu exotique qu'un gouvernement qui est de droite s'appuie sur une proposition de loi socialiste pour pouvoir mener à bien sa politique. Eh bien, il faut reconnaître que M. Barnier avait déclaré le 1er octobre qu'il voulait reporter ses élections, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont aperçus que pour respecter les délais constitutionnels, eh bien, ils auraient été hors délai avec un projet de loi issu du gouvernement qui nécessite plus de contrôle, notamment du Conseil d'État. Et ils se sont aperçus qu'il y avait il y avait un texte que j'avais déposé le 16 septembre dernier et qui, lui, rentre dans les clous sur le plan parlementaire. Donc, c'est vrai que je vais sauver la mise. Je vais sauver la mise du gouvernement. C'est un peu original. Mais je sauve moins, finalement, la mise du gouvernement que m'occuper de l'intérêt général des Néo-Calédoniens, qui est aussi, encore une fois, l'intérêt de la France. C'est un texte qui a été analysé par le Conseil d'État, qui a donné son aval. Et donc, cet après-midi, nous aurons un débat sur un texte issu du groupe socialiste du Sénat, mais qui va servir l'ensemble du pays. Finalement, je m'en félicite. C'est comme ça que je conçois le rôle de l'opposition dans un pays républicain.
Oui, vous dites que ça aurait été sans doute une catastrophe en Nouvelle-Calédonie si les élections avaient dû se tenir en décembre, Patrick, pour terminer.
Oui, vraiment, les conditions n'étaient pas réunies et on aurait sûrement remis le feu sur les braises qui aujourd'hui sont encore très très présentes. Donc vraiment, moi je me félicite de cela. Vous savez, en politique, on est dans la droite, on est à droite, on est à gauche, mais l'important c'est d'être utile au pays.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Canner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine, évidemment, le mercredi. Je vous dis donc à dans deux semaines, dans quelques instants, c'est le Zoom Israël de Pascal Zonshine. Et puis juste après la revue de la presse israélienne, nous allons retrouver aussi Christophe Barbier, son invité ce matin, puisqu'on parle des socialistes. Ce sera Boris Vallot, député de la 3e circonscription des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Zonshine.
Radio J. Et oui, nous retrouvons Pascal Zonshine à Jérusalem. On revient à l'actualité en Israël. Pascal, ce matin, vous souhaitiez faire un point sur les opérations de Tzal au sud Liban contre le groupe terroriste du Hezbollah.
Oui, Ilana, mais d'abord cette information. Il y a une vingtaine de minutes, de nouveaux tirs vers la Galilée et la région de Tel Aviv. Les deux roquettes tirées par le Hezbollah ont été interceptées. Il n'y a pas eu de blessés. Et cela fait maintenant 3 semaines que l'infanterie israélienne opère donc au sud Liban. 4 divisions de Tzal qui pénètrent dans les villages chiites frontaliers et dans les zones contrôlées par le Hezbollah, où la milice pro-iranienne a déployé son dispositif d'attaque, rampes de lancement, arsenaux de roquettes et de missiles, dépôts de munitions et d'explosifs et même des véhicules qui devaient être utilisés le jour J pour une attaque terrestre contre les localités de Haute-Galilée. Autant d'arsenaux et d'armements accumulés durant 18 ans par le Hezbollah dans les maisons, les écoles et les mosquées des villages chiites et dans des galeries et des bunkers creusés dans la montagne avec des puits de tunnels débouchant dans les habitations ou dans les taillis, parfois à quelques mètres des positions de la FINUL, les casques bleus de l'ONU, censés veiller à ce qu'aucune force autre que l'armée régulière libanaise ne soit déployée au sud Liban. Tzal communique très peu sur la progression de ses opérations terrestres au sud Liban et ne donne quasiment aucune information précise sur leur localisation. Ce que l'on sait, c'est qu'elles visent spécifiquement les localités chiites favorables au Hezbollah dans le Liban pluriethnique. Et contrairement à ce qui se passe dans la bande de Gaza, la population civile libanaise a, elle, fui vers le nord et abandonné les villages où ne restent que des miliciens de la force Radouane, en tout cas ceux qui n'ont pas abandonné leur poste, comme l'ont révélé la dizaine de prisonniers capturés par Tzahal. Ces opérations ne sont pas sans péril pour les soldats israéliens, constamment menacés par des embuscades du Hezbollah, tirs de snipers et de missiles anti-chars, des combats qui ont déjà fait plus de 10 tués et des dizaines de blessés dans les rangs de Tzahal. Mais pour permettre le retour des 60 000 Israéliens de Haute-Galilée, évacués depuis maintenant plus d'un an, et un retour à une vie normale pour les centaines de milliers d'autres bombardés quotidiennement par le Hezbollah, il faut parvenir à détruire et à neutraliser toutes les capacités d'attaque de la milice pro-iranienne au sud Liban. Une mission qui devrait durer encore quelques semaines, mais qui devra être suivie par un règlement diplomatique qui garantisse la sécurité d'Israël, ce qui passe par une révision totale de la résolution 1701, votée, on s'en souvient, par le Conseil de sécurité de l'ONU à la fin de la guerre du Liban de l'été 2006. La force intérimaire des Nations Unies, on l'a dit, a totalement échoué dans sa mission. Il faut donc un autre dispositif, soit en élargissant le mandat des casques bleus, soit en recourant à un autre déploiement international, mais aussi en permettant à Israël d'intervenir directement en cas de menace. Le Hezbollah a construit au Liban un véritable État dans l'État, comme l'a expliqué le porte-parole de Tzahal. Il est donc indispensable de réduire son influence aussi sur le plan politique pour que le Liban ne bascule pas dans le chaos et ne devienne pas une colonie de l'Iran, ce qui passerait notamment par l'élection d'un président modéré à la tête du Liban. Mais ce sont autant de défis qu'Israël ne peut pas surmonter seul et qui exigent une action et une prise de responsabilité des nations occidentales.
Merci beaucoup Pascal Zunshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, on se retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 8h. Tout de suite, c'est la revue de la presse israélienne avec Olivier Granilic. Justement, on va revenir sur ces alertes à la roquette qui ont retenti tout à l'heure à Tel Aviv, Yafo, Ramat HaSharon, dans plusieurs villes du centre d'Israël. Vous restez avec nous juste après l'humour, bien sûr, le billet d'humour avec Kevin Derblum et puis Christophe Barbier. L'invité de Christophe ce matin, c'est Boris Vallot, député de la 3e circonscription des Landes. Et puis j'en profite pour vous donner un autre rendez-vous tout à l'heure à 8h30. Vous savez, le mercredi, c'est la journée cinéma. Nous serons avec le réalisateur Fabien Antoniente pour la sortie de son film 4-0. À tout à l'heure à 8h30.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Ce mercredi 23 octobre 2024, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Vous pouvez nous regarder en direct sur notre chaîne YouTube, 383e jour de guerre, sans un otage, toujours dans la bande de Gaza.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, on le disait il y a quelques instants, effectivement, de nouveaux tirs de roquettes sur Tel Aviv. Il y a à peine 10 minutes, Tel Aviv et sa région.
Oui, tout à fait. À 8h04 et très exactement, les sirènes ont retenti encore une fois ce matin à Tel Aviv et sa propre banlieue, mais aussi dans les villes de Migdal HaEmek et à Nazareth dans le nord d'Israël. Plusieurs tirs de roquettes en provenance du Liban ont été identifiés. C'est ce que le porte-parole de Tzahal a confirmé il y a quelques minutes. Pour le moment, on ne déplore ni dégâts ni victimes, mais les services de défense israéliens sont en état d'alerte maximum. Ils craignent en effet que le Hamas et le Hezbollah tentent de célébrer à leur manière les massacres commis l'année dernière à Simchat Torah par le groupe terroriste.
Le reste de l'actualité ce matin, le Yediot Aharonot qui a révélé que le principal sujet abordé lors de la rencontre hier entre Anthony Blinken et Benjamin Netanyahou a été la réponse israélienne aux actions de l'Iran, la future riposte.
Tout à fait, c'est le timing de l'attaque israélienne contre l'Iran qui a été le sujet central lors de la visite du secrétaire d'État américain. C'est ce que nous apprend ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. L'administration Biden cherche à limiter l'attaque à une portée symbolique ou à retarder même cette attaque jusqu'après les élections américaines. Il faut dire que la motivation est politique, une attaque israélienne de grande envergure suivie d'une riposte attendue de l'Iran pourrait nuire aux chances de Kamala Harris d'être élue présidente des États-Unis. Le dilemme est aussi difficile pour Benjamin Netanyahu. Remettre l'attaque contre l'Iran pourrait contrarier Donald Trump, le candidat sur lequel Benjamin Netanyahu a misé pour remporter les élections. Et la déclaration publiée par Netanyahu hier après la réunion révèle sa détermination à frapper l'Iran dès maintenant. Barnea ajoute qu'un nouvel argument est apparu, une riposte au drone du Hezbollah qui a visé la villa de Benjamin Netanyahou et sa famille à Césarée. Cette attaque qui, selon certains ministres israéliens, ne doit pas rester sans réponse.
Les médias israéliens nous en disent un peu plus par ailleurs sur Safi Al-Adin, le successeur de Hassan Nasrallah qui a été éliminé par Israël.
Et c'est le Israel Hayom qui nous explique que Safi Al-Adin, membre influent du conseil de la Shura, l'organe politico-militaire le plus élevé du Hezbollah, était considéré comme le successeur désigné de Hassan Nasrallah. Donc, grâce à ses liens personnels et familiaux étroits avec les leaders de l'organisation, il était profondément impliqué dans les décisions stratégiques du Hezbollah. Le journal nous explique aussi qu'il a également assuré l'intérim de Nasrallah pendant ses absences du Liban, renforçant son rôle central au sein de l'organisation. Puis sa position en faisait une figure clé dans les directions politiques et militaires du Hezbollah. Il a donc été éliminé il y a 3 semaines dans un bombardement de l'armée israélienne au sud du Liban.
Après les révélations hier concernant des espions israéliens travaillant pour l'Iran, la presse israélienne fait état ce matin du démantèlement d'un autre réseau d'espionnage.
Oui, cette fois-ci, Lana, il s'agit d'un autre réseau et c'est le Haaretz qui nous apprend qu'il s'agit d'un réseau d'espionnage dirigé par des résidents du quartier arabe de Beit Safafa à Jérusalem qui a été démantelé et donc accusé de travailler pour l'Iran. Le groupe de cette personne avait pour mission de tuer un scientifique nucléaire israélien et un maire d'une grande ville d'Israël, ainsi que de mener d'autres actions violentes comme lancer une grenade sur un soldat. Leur plan n'a pas été exécuté, mais ils avaient déjà reçu des fonds iraniens pour ces opérations. Le chef du réseau a reconnu que ces actions étaient motivées par des raisons nationalistes.
À la veille de Simchat Torah, les quotidiens israéliens n'oublient pas, par ailleurs, les 101 otages retenus toujours par le Hamas à Gaza.
Et c'est Maya Cohen du Maariv qui a une pensée émue pour les otages et surtout pour leur famille. Ils se lèvent le matin, écrit-elle, mais ne se réveillent pas vraiment. Leurs yeux sont ouverts, mais leur esprit est ailleurs. Quelque part dans les tunnels sombres du Hamas à Gaza, leurs nuits sont hantées par l'image de leurs proches tremblants de froid, affamés, effrayés. Leur vie s'est figée dans un moment de terreur. C'est ce qu'écrit ce matin cette journaliste du Maariv en pensant à ses familles. Les familles des otages se battent non seulement contre le Hamas, dit-elle, mais aussi contre l'indifférence du gouvernement et du public, alors que la guerre continue contre le Hezbollah dans le nord et qu'elle attire l'attention. La douleur des familles des otages s'intensifie et elles se sentent oubliées. Cela fait déjà un an. Combien de temps encore avant que tout soit ramené à la maison? Il est temps d'agir, conclut ce matin Maya Cohen dans le Maariv.
Un point sur les vacances de Soukhot, les Israéliens qui ont préféré rester chez eux, Olivier, en raison de la situation sécuritaire.
Oui, alors que le nord d'Israël continue d'être bombardé et que la guerre continue à Gaza et l'annulation des vols des compagnies aériennes, les Israéliens ont dû revoir leur plan pour les vacances de Soukhot. Selon un reportage de la télévision israélienne hier, la région de la mer Morte est devenue la destination privilégiée pour la Moed Soukhot cette année. Traditionnellement, les sites d'hébergement du nord et du sud d'Israël sont pris d'assaut durant cette période, mais cette année, ils sont restés désertés en raison de la situation sécuritaire. Et le reportage de la télévision israélienne a également noté que même les hôtels de la mer Morte n'affichaient pas complet, soulignant que de nombreux Israéliens avaient finalement préféré cette année rester chez eux.
Et puis nous terminons avec la célébration de Simchat Torah qui aura lieu ce soir en Israël. Et une question demeure, Olivier, comment célébrer cette fête joyeuse un an après les massacres tragiques du 7 octobre?
Une question qui revient ce matin dans tous les quotidiens israéliens pratiquement et bien entendu chez la plupart des Israéliens. Cette année, la fête de Simchat Torah revêt une signification particulière marquant un an depuis le massacre du Hamas. De nombreuses communautés se questionnent sur la manière de célébrer cette fête joyeuse alors que le pays est toujours en guerre. L'an dernier, les Hakafot, ces danses rituelles faites avec les Sifrei Torah, avaient été annulées à cause du conflit soudain. Et le Israël Hayom nous apprend aussi que l'Organisation mondiale des synagogues, en collaboration avec certaines associations comme Tsoar, propose un modèle alliant célébration et mémoire des disparus. Renoncer à l'aspect joyeux de ce jour serait une victoire pour nos ennemis, explique le rabbin Shmuel Slotik, directeur de l'Organisation mondiale des synagogues, qui a perdu ses deux fils le 7 octobre. D'un autre côté, il est évident que la douleur et le chagrin, alors que nous sommes en pleine guerre qui a débuté à Simchat Torah, doivent aussi faire partie de cette journée. Et puis un événement aussi important, Ilana, se déroulera sur le site du festival Nova où des familles des otages retourneront pour organiser des Hakafot Shniot, les deuxièmes danses après la fête donc de Simchat Torah en mémoire de leurs proches.
Merci beaucoup, Chag Sameach, Olivier Granilic. On vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J. Très bonne fête et donc à la semaine prochaine.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-ayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons. Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Ne bougez pas tout de suite, l'humour avec Kevin Derbloom, Christophe Barbier, son invité Boris Vallot et à 8h30, un réalisateur, un peu de comédie dans cette actualité difficile. Le réalisateur Fabien Antoniente sera avec nous pour son film 4-0 à 8h30. À tout à l'heure.
Radio G.
Bonjour, c'est Annabelle Chaud. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 15h à 16h20 avec un invité dans mon émission sur Radio J. Interview, confidences, jeux, défis. Vos artistes comme vous ne les avez jamais entendus, c'est dans le Annabelle Chaud, le late show de l'après-midi, du lundi au jeudi à 15h sur Radio J.
Radio J.
Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend? Meilleurbiens.pro est là pour vous. Meilleurbiens.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbiens.pro, c'est l'immobilier de demain, accessible dès aujourd'hui. Faites le choix de la performance et du succès. Meilleurbiens.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier.
Radio J, le 6-9, il en a fait radiant.
Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J, comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans quelques instants. Christophe Barbier, son invité, Boris Vallaud, député de la 3e circonscription des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs.
Bonjour Ilana.
Ravi d'être avec vous et ravi de retrouver Kevin Derbloom. Bonjour Kevin.
Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour monsieur Vallaud, bonjour à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui je vais vous raconter le moment phare de mon début de semaine. Eh oui, allez, je vous le dis sans phare, j'ai changé d'optique, d'optique de phare. Oui, j'avais un phare cassé sur ma voiture et j'ai dû le faire réparer. Un moment certainement anecdotique pour 99,9% des gens et qui aurait pu et dû l'être pour moi aussi. Mais c'était sans compter sur ma légendaire Shkoumoun. Ce changement de phare ne m'aura pris au final que 4 allers-retours dans une célèbre enseigne qui promet une réparation en 30 minutes, montre en main.
Alors, si vous avez un impact, on le répare en 30 minutes.
La promesse paraissait plus alléchante que celle sur les petits tracts que l'on retrouve dans la boîte aux lettres et qui nous promettent le retour de l'être aimé, la réparation de votre PC par télépathie ou une guérison immédiate. Mais non, j'ai roulé pendant plusieurs mois avec un phare fissuré, ou plutôt devrais-je dire un phare à fossettes. Tout ça,
on se souvient d'elle.
Oui, on se souvient d'elle. Tout ça, car une drôle de dame au téléphone m'a donné rendez-vous dans un garage d'incompétents. 4 allers-retours et autant de phares remplacés que l'on m'a généreusement laissé au cas où. C'est peu dire que dans ce centre de réparation, c'est pas des lumières.
Mais alors pourquoi 4 allers-retours, Kevin? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Eh bien, figurez-vous qu'à chaque fois qu'il recevait un nouveau phare, comme il n'ouvrait pas le colis avant l'heure de mon rendez-vous, vous n'allez pas le croire, il était fissuré. Donc je suis donc l'heureux détenteur d'une collection de phares avant gauche, on ne sait jamais, ça peut servir. Si jamais il y a une descente de police chez moi, c'est sûr, ils vont croire que je fais de la revente de pièces automobiles. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous êtes à la recherche d'un phare avant gauche de Peugeot 5008, vous pouvez appeler le standard de la radio ou envoyer phare, P-H-A-R-E, au 8-12-12. Enfin bon, ils sont pas 9-9, mais on s'écrit, je vous envoie les photos et... Bonsoir à tous, Christophe, bonsoir Monsieur Vallaud. Notre invité d'aujourd'hui a vu sa vie basculer le jour où il a voulu changer de phare avant gauche. Il avait une vie équilibrée, une vie de famille jusqu'à ce fameux 24 juin et une prise de rendez-vous malheureuse qui a bouleversé son destin et l'a amené à devenir trafiquant de phare avant gauche de 5008. Il est avec nous en plateau. Nous l'appellerons Bernard. Bernard, vous avez souhaité garder l'anonymat aujourd'hui. Je précise que ce n'est pas votre nom. Bernard, vous êtes dans quelle optique de vie aujourd'hui? La revente de phare est-elle un business lucratif?
Bah, ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas. On m'a dit, c'est un phare endommagé, il n'y a pas de mal à revendre ça sur le bon coin, puis de fil en aiguille, j'y ai pris goût. Ça commence par un phare, et puis après, l'addiction. On s'en sort plus. D'ailleurs, je compte m'installer en Bretagne.
Pourquoi ça, Bernard? Pourquoi la Bretagne?
Bah, je compte me lancer dans le phare breton.
Bon, dans tout ça, est-ce qu'elle est réparée votre voiture, Kevin?
Oui, merci Lana. Le phare est comme neuf, mais bon, elle est plus toute jeune. Hein. En même temps, je sais pas pourquoi je m'acharne dans cette relation. Hein. Il faut que je m'y fasse, elle devient vieille. Et parfois, on a beau essayer de réparer, quand c'est cassé. Hein. À chaque trajet, j'ai peur que ça se passe mal entre nous et qu'elle me fasse le coup de la panne.
Vous êtes sûr que vous parlez toujours de votre voiture, là?
Bah oui, pourquoi vous pensez à quoi, Ilana? Bah non, bah oui, effectivement. Enfin bon, bah moi, faut que je vous laisse parce que je suis garé au double fil. Et donc, faut que j'y aille. Merci de m'avoir écouté, puis bonne journée à toutes et à tous.
Merci beaucoup, Kevin Derbloom. Les folles aventures de Kevin et de sa voiture. Ça vous rappelle des souvenirs, Christophe?
Ah, Farah Fawcett et le phare breton. Oui, ça, s'en souviendra, ça.
Merci beaucoup, Kevin.
Merci.
On vous retrouve évidemment chaque semaine. Et puis, j'en profite aussi pour annoncer cette soirée qui aura lieu le 12 novembre. Prochain, la première soirée Radio J Comedy Club. Tous nos humoristes seront réunis avec la présence exceptionnelle aussi de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. On vous retrouve donc le 12 novembre. Et Christophe sera là aussi pour rire avec nous, pour se fendre la poire.
Moi, je lisais tous les matins gratuitement.
Merci, Kevin. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Boris Vallaud, député de la 3e circonscription des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Les grands débats commencent sur Radio J.
Boris Vallaud, bonjour.
Bonjour.
Derrière l'homme politique, il y a un écrivain. On va parler aussi de En permanence. En permanence, c'est Vie que j'ai fait mienne. C'est le livre que vous publiez chez Odile Jacob. Un livre très atypique comme livre politique. Vous partez des portraits des gens que vous connaissez qui défilent dans cette permanence. Vous montrez votre attachement à toutes ces individus, à tous ces morceaux d'humanité. Mais vous en tirez aussi des leçons sur le métier de politique. On va en parler. L'actualité, c'est vos nuits passées à voter le budget ou à ne pas le voter. Cette nuit, l'Assemblée a voté la surtaxe pour les ménages aisés, comme le demandait le gouvernement. Mais le gouvernement le voulait pour 3 ans et l'Assemblée a décidé que ça serait pour toujours. N'allez-vous pas faire fuir ces contribuables?
Non, d'abord parce que la question qui se pose à nous, c'est celle de la justice fiscale, pas celle des impôts. C'est est-ce que chacun, dans une société, contribue à hauteur de ses moyens? Et là, en l'occurrence, on sait que, par exemple, le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur à l'effort qui est consenti par celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Donc évidemment, ça peut pas fonctionner. Et donc, on ne s'accommode pas de mesures de justice fiscale qui seraient ponctuelles et qui seraient en contradiction non seulement avec les besoins que l'on a de faire fonctionner nos services publics, notamment, mais aussi avec l'idée que l'on se fait d'une démocratie moderne. C'est-à-dire que les parlements modernes ont été créés pour consentir à l'impôt. Et bien, finalement, nous sommes dans cette filiation-là. Et alors, mesurez bien que si ça a été adopté, c'est que ça a été adopté avec une majorité qui s'est trouvée dans l'hémicycle, et notamment le MoDem a rejoint les voix de la gauche.
Une partie de la gauche veut taxer plus l'assurance vie. Est-ce que ça ne va pas frapper tous les Français qui ont des assurances vie sans être des riches?
Non, précisément, je crois que quand l'épargne est le fruit d'une vie de travail, il faut les protéger. Mais il y a aussi la rente qui se nourrit d'augmentations qui ne sont pas le fruit du travail. Donc on protège les classes moyennes. La philosophie qui est la nôtre dans les amendements que nous déposons, c'est protéger les classes populaires et les classes moyennes, celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, et mettre plus et mieux à contribution les très hauts revenus, les très hauts patrimoines, le monde de la finance, et c'est de ça dont il s'agit dans le cas d'espèce, et puis les multinationales qui consolident, vous savez, 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Il manque pour tous les pays de l'Union européenne 20% des recettes d'impôts sur les sociétés. Bah, vous comprenez que dans certaines circonstances, les PME, les TPE, nos commerçants de quartier, nos artisans de nos villages paient les impôts de ceux qui n'en paient pas assez.
De la même manière, supprimer des abattements de cotisations qui ont permis de créer des emplois dans beaucoup de PME, est-ce que ça ne va pas créer du chômage?
Alors, en l'occurrence, nous nous fondons sur une analyse d'économistes documentée qui a maintenant un recul pour apprécier ce que les baisses de cotisations par échelle de revenus a permis de produire en termes de création d'emplois. Il y avait un amendement qui était proposé par le gouvernement lui-même qui était de relissage des cotisations, c'est-à-dire moins en haut de l'échelle des revenus et plus en bas, et il se trouve qu'elle n'a pas été votée hier par la coalition qui est censée soutenir pourtant ce gouvernement.
Le problème est donc chez eux.
Bah écoutez, ceux qui nous ont laissé la facture, la grivellerie budgétaire, c'est Bruno Le Maire, c'est pas nous.
Et demain, le problème sera chez vous parce que le RN profite de sa niche parlementaire pour abolir la réforme des retraites. Est-ce que vous voterez cette réforme qui va dans votre sens?
D'abord, rétablissons la vérité, ils abolissent rien du tout. Le premier rendez-vous de l'abrogation de la réforme des retraites, c'était la motion de censure. Le Rassemblement National ne l'a pas votée parce qu'il soutient un gouvernement dont le projet est de maintenir et de mettre en œuvre la réforme des retraites. Il y a 2 jours, dans le cadre de l'examen en commission de la loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu un amendement pour abroger la réforme des retraites. le Rassemblement national ne l'a pas voté. Et puis là, c'est une sorte de grande supercherie. D'ailleurs, les organisations syndicales qui se sont mobilisées contre les réformes de retraite le reconnaissent et le disent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite à cette proposition de loi. En revanche, la gauche propose, fin novembre, un rendez-vous qui permet non seulement de voter à l'Assemblée nationale, mais ensuite de se donner rendez-vous au Sénat, dans une niche parlementaire de gauche, et d'organiser encore au mois de février un retour à l'Assemblée nationale.
Pas de majorité au Sénat, enfin bref.
Mais ça n'empêche pas.
Aucune des deux offensives va marcher.
Non, détrompez-vous. Ça n'est pas parce que ça n'est pas voté au Sénat que ça ne revient pas à l'Assemblée nationale avec, vous le savez, le dernier mot qui est toujours donné à l'Assemblée nationale.
Et donc vous demandez au RN de voter la vôtre dans un
moment. Moi, je demande rien au RN. Il est assez peu conséquent. Rappelez-vous que M. Bardella, dans la campagne législative, envisageait la retraite à 66 ans. Donc je veux dire, les faussaires sur cette question-là, c'est pas nous.
Dans votre livre, en permanence, on croise un fromager au bord de la faillite, une femme surendettée, un mécanicien communiste, un prisonnier qui vous écrit, un curé. Vous êtes député ou vous êtes psy, assistante sociale ?
Je suis député, mais il est vrai que dans ma permanence, les gens viennent partager avec moi les duretés de leur vie, leurs difficultés administratives, leurs difficultés de logement, d'accès à l'emploi, de mobilité. Ils me disent aussi leurs aspirations, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils attendent de leur élu. Et au fond, dans l'espèce de brouillard de l'époque, de tyrannie de l'instant médiatique où il faut prendre parti en 5 minutes sur tout et sur tout, moi j'ai eu besoin de m'arracher à tout ça et de revenir à l'essentiel, de revenir aux choses humaines. Parce que sinon, si on n'a pas cette proximité avec les vies de celles et de ceux que l'on représente, je trouve que la politique manque de vérité, manque de sincérité dans son rapport au réel. Beaucoup de ceux qui viennent me voir, parfois viennent me voir en me disant « j'ai rien à vous demander, mais je veux juste vous dire comment ça se passe. Comment ça se passe ma vie, ou comment ça se passe pas, le plus souvent. » Et j'essaye de répondre à une question qui taraude tout électeur, c'est « que savent-ils de nos vies ? Que comprennent-ils de nos difficultés ?» Et donc la politique qui parle beaucoup, qui parle en général d'elle-même, là je lui offre d'une certaine manière un moment d'écoute, un moment de compréhension, un moment de partage, un moment de fraternité, parce que en réalité ce sont des vies singulières, mais ce sont des vises universelles.
Alors, beaucoup de ceux que vous croisez ont des difficultés avec l'administration, la paperasse. Alors, vous les aidez à se débrouiller, mais vous allez donc soutenir la stratégie de Michel Barnier. Supprimer des postes dans les bureaux sans toucher à la fonction publique de terrain.
Mais vous savez, la réalité, c'est que le plus souvent, on supprime des postes dans les administrations centrales sans se priver d'en faire autant dans les administrations.
Oui, mais là, il y a une possibilité peut-être de...
Mais on verra. Moi, vous savez, je n'ai pas d'a priori. La situation assez singulière et déconcertante, c'est que moi, j'ai été fonctionnaire. Je suis aujourd'hui législateur. Et là, dans la proximité des démarches administratives qu'on va faire celles et ceux qui viennent en ma permanence, je mesure à quel point ça peut être un golem administratif. Parce que nous n'avons plus d'interlocuteurs, parce qu'il change, parce qu'il y a la dématérialisation, parce que la bureaucratie, et je distingue la bureaucratie de la norme elle protège, elle organise la vie en société aussi, la bureaucratie rend le recours au droit très difficile. Je parle d'une maman d'un enfant en situation de handicap qui veut demander une aide. Elle a 24 pages de CERFA, formulaire administratif, à remplir, dont une page d'écrire le projet de vie de l'enfant. Franchement, quand elle pousse la porte de ma permanence, je lis dans ses yeux une forme de terreur.
Ça, ce sont les députés qui ont voté des textes qui donnent les CERFA 24 pages.
Précisément, et si on ne l'éprouve pas, mais au sens de le vivre comme une épreuve, aux côtés de celles et de ceux qui en ont la nécessité, je le dis, moi, des fois, on n'y comprend pas grand-chose, eh bien, on n'est pas capable de ce retour critique. Et moi, les choses, je ne veux pas qu'elles soient théoriques, je veux qu'elles soient pratiques. Je le dis aussi dans le bouquin, vous savez, vous connaissez, on est tous à 5 poignées de main du président de la République. Mais moi, je ne sais pas à combien de poignées de main le président de la République est des Françaises et des Français. Ce que je sais, c'est que comme député, moi je veux qu'il y ait une seule poignée de main entre moi et celles et ceux que je représente.
On voit monter l'antiparlementarisme. Ce matin, un sondage dit que 23% des gens considèrent que la démocratie, ce n'est pas forcément le meilleur régime. Quand on voit un député être arrêté parce qu'il a acheté de la drogue, ça fait monter l'antiparlementariste. Qu'est-ce que vous lui dites?
J'ai envie de faire le constat, malheureux et désenchanté, que ça fait longtemps qu'il y a de l'antiparlementarisme. Et au fond, elle traverse l'histoire. Elle est peut-être consubstantielle même au régime parlementaire. Il faut évidemment de l'exemplarité. Mais là, dans ce que j'essaye de faire, c'est de dire ce que, de mon point de vue, doit être la politique. Point de vue de la façon d'être et de la façon de faire. Façon de faire, cette proximité. Le faire tomber toutes ces frontières invisibles entre les représentés et leurs représentants. Et puis la façon d'être, c'est écouter sans juger pour vraiment comprendre. Quand je dis sans juger, c'est qu'on est toujours encombré d'abord de soi, de ses propres préjugés, de son histoire, mais la politique est surchargée en morale. La politique fait la morale.
Le bien, le mal,
oui, c'est ça, c'est,
l'idéologie.
On passe notre temps à juger de la façon dont les gens vivent, ce qu'ils mangent, quelles sont leurs pratiques culturelles et sportives, comment ils éduquent ou pas leurs enfants, comment ils habitent, et où est la place de l'écoute. Alors j'essaie de résoudre cette contradiction entre les abstractions, parfois, dans la recherche de l'intérêt général à l'Assemblée, et les cas très pratiques sur mon territoire.
Le paradoxe du député, comme le paradoxe du comédien que vous décrivez, celui de Diderot, ça vous amène à, par exemple, considérer que, pas que la chasse, c'est à considérer, il ne faut pas l'interdire comme ça par décret, et vous dites, quand on brutalise les identités, on prend le risque des identitaires. Ça, c'est un message à la gauche.
Oui, c'est peut-être un message à nous tous. Moi, dans le livre, j'essaye précisément de ne pas prendre parti, parce que sinon, on est dans le pour ou le contre. J'essaie juste de restituer ce qui peut tarauder une société, ce qui peut traverser la psyché de territoire, qui ont le sentiment parfois de la réclusion, de la stigmatisation, d'éloignants, dont on ne parle que comme des périphéries, alors qu'elles se vivent elles-mêmes comme des centres. Périphérie de quoi ? Peut-être que c'est au fond les grandes zones urbaines qui sont la périphérie de nos campagnes, et moi je suis un élu de la campagne. Et le sentiment d'une domination d'une France sur une autre est très forte. Et c'est pour ça que je parle des agriculteurs, c'est pour ça que je parle de ce vieux chasseur communiste, et que j'essaye de donner aussi non seulement de la dignité aux gens, mais de la dignité à la façon dont ils vivent.
Vous décrivez aussi ce que vous appelez une marée de pauvreté quand vous allez visiter les restos du cœur. Vous avez l'impression que la France est au bord d'une grande explosion sociale, révolte des pauvres.
C'est très ambivalent parce que il y a des vies invivables, si je me permets cette tautologie. Elle est insupportable et, oui, les Restos du Cœur, les épiceries sociales, le Secours Populaire ou le Secours Catholique, c'est les bons baromètres de ce qui se passe. Et quand vous y allez, quand on vous dit maintenant on a des jeunes, maintenant on a des retraités, on a des actifs qui bossent mais qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, vous ne pouvez pas ne pas être saisi d'une forme de révolte et de vous poser la question de savoir comment on produit non seulement de la richesse, mais comment on la distribue plus justement. Ça nous ramène à notre premier point.
Un mot pour finir du Liban, où vous êtes né. N'avez-vous pas l'impression que depuis 4 ans, depuis l'explosion du port de Beyrouth, on a un Liban mis en coupe réglée par le Hezbollah et l'Iran?
C'est une réalité objective que chacun constate. Je veux dire que moi, j'ai des copains là-bas, et dont on prend des nouvelles. Je dis parce que c'est ma famille et que tout ça est évidemment douleur. Moi, je sais, j'ai une relation à ce pays dans lequel je suis né, par le hasard des histoires familiales, qui est très romantique. C'était moi depuis toujours ma petite patrie éloignée, voilà.
Israël aujourd'hui menant une guerre contre le Hezbollah, certains disent il libère le Liban du Hezbollah, d'autres disent il nous mène une guerre.
Aujourd'hui moi j'appelle au cessez-le-feu, à la libération des otages, à la paix pour éviter l'embrasement de cette région. Vous savez, j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça via les guerrières de la paix que vous connaissez sans doute, des militants de la paix israéliens, palestiniens, et quand je regarde la force qui est la l'autre dans cette espèce de grande nuit, je vois de la lumière, et je m'y raccroche.
Emmanuel Macron, il porte cette lumière au Liban ou il embrouille le jeu?
Indépendamment des circonstances immédiates, je dois vous dire, j'avais trouvé beaucoup de naïveté dans les expressions juste après l'explosion du président de la République qui semblait dire, écoutez, réglez-moi ça dans les 15 jours s'il vous plaît. Le général de Gaulle disait, il faut aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples, mais pas simplistes.
Boris Vallot, En permanence, c'est chez Odile Jacob, un voyage passionnant, très bien écrit.
Merci beaucoup.
Dans ce bout d'humanité qui s'appelle les Landes, Saint-Sever, mais qui est la France.
Un morceau de bonheur.
Un morceau de bonheur. Merci, bonne journée.
Merci.
Merci Christophe. On vous retrouvera lundi. Et oui, fête juive oblige, lundi pour votre édito. À lundi.
Radio J. Retrouvez le barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Bible, Talmud, Ashkenaz et Séfarade, pratiques synagogales et piété personnelle, tradition et réforme. C'est avec pédagogie que Maurice Ruben Ayoun nous fait voyager des origines à aujourd'hui. Cette galerie encyclopédique montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Les voies du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Les éditions du CERF. Un livre riche, accessible, stimulant.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. ils ont besoin de vous. Maintenant, chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom.
Association au service de la vie.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.
Radio J.
Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du Casip et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du Casip. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du Casip et gagnez en solidarité. Information et tickets à 26 euros, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J.